solo esta vez. Ole, ole, ole.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Potpourri Show. Sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
Les médias publics, ce sont les vôtres. Alors quoi de plus normal que d'imaginer leur avenir avec vous? En 2018 déjà, vous étiez nombreux à nous répondre. Alors en cette année si particulière, qu'attendez-vous de vos médias publics? Info, éducation, divertissement, culture, sur nos réseaux de proximité ou internationaux, venez proposer vos idées sur nosmediapublics.fr. Parce que rien ne se fait sans vous, inventons aujourd'hui ensemble les médias de demain.
Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir.
C'était le 19 mai 1981, il y a bientôt 40 ans, quand le troisième président de la Ve République faisait ses adieux aux Français, le premier président moderne, celui des 70s, qui pensait que la postérité ne retiendrait rien de lui. Et pourtant, la mise en scène de son départ, un silence de 7 secondes avant de dire au revoir et un plan fixe sur une chaise vide, est resté dans toutes les mémoires.
Celui qui a modernisé et bousculé les codes, Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République française, est décédé le 2 décembre, emporté des suites du Covid-19. Engagement en faveur de l'Europe, des droits des femmes, des droits des jeunes, en gardant toujours à l'esprit cette certaine idée de la France qui nous manque tant aujourd'hui. Mais qui est cet homme dont de nombreux humoristes n'ont cessé d'imiter ? Dimanche 13 décembre 2020. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à Popourri Show, l'ingénieur du son DJ Devera, production, animation, Eric Kader avec vous jusqu'à 13h sur CUTFM et pour télécharger nos émissions tout au long de l'année où que vous soyez, popourrishow.com. Salutations spéciales à de nombreux collaborateurs et auditeurs qui sont à l'écoute. Philippe Demagny, ingénieur belge qui gère une plateforme unique permettant d'écouter et de vulgariser le patrimoine musical de l'océan Indien. Et oui, nous allons très bientôt faire un petit spécial Sega et Maloya à l'antenne. Vous pouvez avoir accès à son site qui est une vraie mine d'or de musique des îles de l'océan Indien, philoumaurice.com. Et vous pouvez bien sûr retrouver toutes les adresses et les liens sur notre site web popourrishow.com. Un message de Luc Dupont qui apprécie nos émissions, particulièrement l'hommage au grand pianiste québécois André Gagnon, décédé le 3 décembre. Luc Dupont, un Canadien qui vit à Luxembourg, écrit « J'ai publié votre message dans les groupes Facebook Canadiens en Europe, Canadiens en Luxembourg et Québécois en Europe. Merci pour votre apport à la vie francophone. Merci infiniment, Monsieur Luc Dupont, et j'espère vous avoir très prochainement à notre antenne. » Vient de paraître La migration transculturelle dans les romans d'Eddy Bouraoui. Et oui, les romans d'Eddy Bouraoui nous transportent toujours vers d'autres cieux. C'est en anglais. Et oui, c'est pris dans le contexte du voyage et du déplacement. Le retour est conçu par Eddy Bouraoui comme un mouvement sans fin, une quête incessante de soi, une réflexion sur la mémoire, une rencontre avec l'autre, une excellente analyse exploratoire du professeur émérite Elisabeth Sabiston. Elle est autrice de cet ouvrage. Vous trouverez les détails sur notre site. Et là, les champs d'action ou les champs d'intérêt plutôt du professeur Elisabeth Sabiston comprennent les femmes dans la littérature, en particulier les romancières du 19e siècle, littérature américaine, littérature française, les études maghrébines et l'anglais. Je rappelle qu'elle a enseigné à l'université York, en Ontario, bien sûr. Au menu ce dimanche, hommage à trois personnalités qui ont marqué la francophonie. À notre façon, nous allons rendre hommage d'abord l'homme de progrès et de liberté, le réformateur, le troisième président de la Ve République française, Valéry Giscard d'Estaing. Hommage à André Gagnon, ce célèbre musicien, compositeur et chef d'orchestre québécois, reconnu mondialement. Et oui, il est décédé récemment. On en parle et bien sûr on entendra ses musiques. Et enfin Anne Sylvestre, pas très connue au Canada, une grande chanteuse française, 60 ans de carrière, des centaines de chansons pour adultes et pour enfants. Elle laisse derrière elle une œuvre immense. Parmi nos invités, un auteur de Moncton qui défie les conventions du roman atypique, un roman sur les dérives amoureuses des Dick Pics sous les étoiles, de l'acadien Pierre-André Doucet. Il est pianiste, écrivain, il est reconnu pour la vivacité de ses paysages sonores et la musicalité de ses textes. Une collaboration spéciale de notre partenaire qui a si généreusement renouvelé son appui à CUTFM. Un grand merci. Les éditions Prise de Parole qui appuient les auteurs, les autrices de la francophonie canadienne. D'ailleurs, plusieurs écrivains et écrivaines seront des nôtres dimanche 20 décembre, à ne pas manquer. L'impact de la crise sanitaire commence à faire des victimes, et oui, la Fondation Sylvie Nilaine-Dor de Toronto en danger, un exemple parmi tant d'organismes en Ontario français. Dédiée aux jeunes noirs, franco-torontois, la Fondation Sylvie Nilaine-Dor n'a plus d'argent. Son président Anne-Clé Fontaine n'écarte pas l'idée d'une fin définitive à des activités, une décision qui aurait de lourdes conséquences pour les jeunes noirs francophones démunis, vulnérables. La Fondation Sylvie Nilaine-Dor nous a partagé d'ailleurs un rapport d'une recherche très bien fouillée qui démontre clairement que les organismes dirigés par les noirs demeurent sous-financés. Seulement 6 des 40 fondations publiques et privées examinées ont versé des fonds à des organismes desservant les populations noires dans les années financières 2017 et 2018. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce fameux rapport, je vous invite à visiter notre site popourichaud.com. Dossier équité en matière d'emploi, une nouvelle qui a eu l'effet d'une petite bombe la semaine dernière. Des fonctionnaires noirs poursuivent le gouvernement fédéral pour la discrimination systémique dans les embauches. Et oui, ils réclament, je pense, comme 90 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Notre correspondant, un ex-agent de la Gendarmerie Royale du Canada, la GRC, lui-même victime de discrimination, Alain Babineau, sera des nôtres. En France, mauvais chiffre du Covid-19, le déconfinement menacé. Alors que la décrue de l'épidémie ralentit, les autorités pourraient suspendre le retour à un simple couvre-feu prévu le 15 décembre. Visite d'État du président égyptien, la France déroule le tapis rouge à un dictateur. Visite très critiquée par les ONG, une conférence de presse d'ailleurs qui a tourné en dérision. À ne pas oublier le système répressif alimenté par une torture généralisée dans les prisons en Égypte. Plusieurs journalistes et blogueurs sont en prison. De France 24, la République démocratique du Congo s'enfonce dans la crise politique. Des incidents au Parlement, le président congolais Félix Tshisekedi a annoncé la fin de la coalition au pouvoir. Le Front commun pour le Congo qualifie cette décision comme une violation de la Constitution. Le procès de 3 pères ayant aidé leurs enfants à émigrer divise le Sénégal. Et oui, 3 pères de famille sont poursuivis au Sénégal pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Europe. Tunisie, mardi 8 décembre, c'était la journée de colère par les médecins. La mort accidentelle la semaine dernière dans l'ouest du pays d'un jeune médecin qui a chuté dans une cage d'ascenseur fut le déclencheur d'un mouvement qui a gagné tout le territoire. La France et le Maroc s'accordent sur le retour de migrants mineurs. Voilà, c'est fait. Haïti, malgré les contestations, le comité consultatif de Jovenel Moïse, président, projette de finaliser le 26 février 2021 son projet de nouvelle constitution. Les autorités de la Guadeloupe se préparent à expulser en Haïti une trentaine de ressortissants haïtiens par vol spécialement affrété. Martinique, fin des attestations et du couvre-feu et réouverture des restaurants. Cela s'est déroulé vendredi dernier. Et Martinique et l'île de la Réunion, alerte et vigilance avec des volcans en éruption. Voilà. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing, oui, est décédé mercredi dernier à l'âge de 94 ans. Le plus jeune président de la 5e République de l'époque, il avait 47 ans à l'époque, il a su rénover la société française avant que ce grand défenseur de l'Union européenne ne sombre dans l'oubli. D'ailleurs, les Bretons s'en souviennent de ses passages, sa visite en février 1977 et son discours à Ploermel où il a lancé la charte culturelle de Bretagne. C'était bien sûr sous haute tension. Hommage à Valéry Giscard d'Estaing. Quelques moments qui ont marqué sa vie politique. Un reportage de France 24.
Pas uniquement la vie politique. Moi, j'ai été président jusqu'à 55 ans. 55 ans dans la vie moderne, c'est pas un âge très élevé. J'avais encore une vie devant moi, des choses qui m'intéressaient, des choses à faire. Alors, je me suis passionné pour l'Europe. Et puis, j'ai gardé ma curiosité pour l'écriture et pour la littérature.
Voilà résumé l'itinéraire d'un homme d'État qui a traversé plusieurs décennies de l'histoire de France grâce à sa longévité et sa précocité. À 16 ans, Valéry Giscard d'Estaing obtient 2 baccalauréats. À 18 ans, en 1944, il participe à la libération de Paris sur les barricades et rejoint l'armée française pour combattre en Allemagne et en Autriche. Après Polytechnique Helena, à seulement 32 ans, Valéry Giscard d'Estaing devient déjà secrétaire d'État aux Finances. Il sera ensuite le plus jeune ministre des Finances à 36 ans, un poste qu'il occupera sous Charles de Gaulle, puis Georges Pompidou. Au décès de ce dernier en 1974, Végeux se présente à la présidentielle. Sa campagne se veut moderne.
Je voudrais regarder la France au fond des yeux.
Très bon orateur, le jeune candidat centriste marque les mémoires lors du débat de l'entre-deux-tours face à François Mitterrand.
Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Valéry Giscard d'Estaing l'emporte de justesse. À 48 ans, il devient le plus jeune président de la Ve République.
Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
Et le changement viendra avec les réformes. Il abaisse la majorité de 21 à 18 ans, instaure le divorce par consentement mutuel, dépénalise l'avortement dans une loi portée par sa ministre Simone Veil. Son premier gouvernement sera d'ailleurs marqué par les femmes. Elles sont 3 dans son équipe.
Il y avait quelque chose d'irrésistible, vous voyez, dans son ascension. On a vraiment l'impression d'un début éblouissant. Et puis, progressivement, l'image s'éternise. Il y a eu des chocs pétroliers, on oublie qu'il y en a eu même 2 pendant le septennat. Il y a eu la montée de la gauche qui était presque inexorable au bout de 20 ans, etc. Et puis surtout la division de la droite.
Une division qui s'illustre avec cette poignée de main refusée à Jacques Chirac. C'est le début d'une brouille de plusieurs années.
Française, Français.
Candidat à sa réélection en 1981, Valéry Giscard d'Estaing est d'abord favori dans les sondages, avant de dévisser à l'approche du scrutin. La crise, le cap du million de chômeurs et sa politique de rigueur vont lui coûter cher. Une affaire l'a aussi rendu impopulaire avec un cadeau empoisonné, des diamants offerts au chef de l'État par le président centrafricain Bokassa. François Mitterrand l'emporte finalement, Valéry Giscard d'Estaing quitte le pouvoir et tourne le dos à ses ambitions.
Au revoir.
Il revient par la petite porte dans son fief, l'Auvergne, où il est réélu pour plusieurs mandats locaux pendant plus de 20 ans. Valéry Giscard d'Estaing poursuit aussi le rêve européen et participe à la création de ses nouvelles institutions. Il s'essaie à l'écriture avec plusieurs romans et nouvelles. En 2003, il rejoint les Immortels de l'Académie française et prend le fauteuil de Léopold Sédar Senghor.
C'est une immortalité un peu particulière, parce que la première chose qu'on fait, c'est de faire l'éloge de son prédécesseur défunt.
Ce sont désormais ses compatriotes qui font l'éloge de l'ancien chef d'État. Critiqué en son temps, VGE jouit aujourd'hui d'une image de bon président. Une image quelque peu ternie au crépuscule de sa vie par une plainte pour agression sexuelle. Des faits commis en 2018 selon la journaliste allemande qui l'accuse et que Valéry Giscard d'Estaing a toujours refusé de commenter.
Sous le bras ta potence, tu es violence, errance et arrogance. C'est témoin le bordel au temps du Minitel. Ouais. Parois en métal, mesure gouvernementale. Un stock de PQ, de pâtes de riz, ça tente, tente. Tous aux fenêtres, les mains sont prêtes, ça peint. Confiné, confiné, oh. de ta génération. Confiné, oh confiné, à une lettre près, t'insulte la nation. T'insulte la nation. Confiné, oh confiné, tu fais tourner en fais squatter notre petite kitchenette à la maison, cuisinant des bons plats de friture, des bombes à calories. Et oui, je n'ai rien demandé, mon pèse personne aussi. Tu pars, tu reviens comme un amant romantique, volcanique. Te voir revenir devient endémique, psychiatrique, confiné. Confiné, oh confiné, tu es le leitmotiv de ta génération. Ouais. Confiné, oh confiné, à une lettre près, t'insultes la nation. T'insultes la nation.
Et sa grand-mère sont heureux de se retrouver. En respectant certaines règles, ils peuvent à nouveau se voir, se parler, mais aussi rire et s'amuser ensemble. Le virus circule toujours. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop. 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts. Ensemble, restons prudents.
La Martinique ? Vous y êtes venu pour ses plages de rêve et elle vous a offert un nouveau paradis. Elle vous a offert une nouvelle nature, de nouvelles saveurs, de nouvelles sensations, de nouvelles traditions. Et au bout de votre voyage, elle vous a offert ce que vous n'étiez pas venu chercher, une nouvelle famille.
La Martinique, elle vous aime.
Bringing you 60 minutes every hour, 24 hours a day, but not without you. Visit CIUT.fm and donate. CIUT 89.5, Toronto.
L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24, à la une ce soir.
Incroyable exploit réalisé par le Bénin.
Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24.
Restez avec nous, sur France 24.
Liberté, égalité, actualité.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann, la thérapeute, a déjà fait ses preuves. Yann, la thérapeute, possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann, la thérapeute, dans CUT 89,5 FM, Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligents. Contactez Noir et Psy, Yann, la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show, et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Ricader. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Education Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Et oui, mesdames, messieurs, nous entendons actuellement un extrait d'un album de André Gagnon. C'est notre façon de lui rendre hommage. Le Canada a perdu un très grand musicien, André Gagnon. Et sa pièce s'intitule « Wow », réalisée en 1975, un genre de disco-funk. D'ailleurs, dans la deuxième heure, nous entendrons un petit reportage en signe d'hommage à André Gagnon. Cette année, les consignes pour le temps des fêtes dans le contexte de la Covid-19 nous obligent à passer les fêtes sous le signe de la lecture. Chaque semaine, CUT FM et les éditions Prise de Parole vous présentent des nouveautés franco-canadiennes. Gâtez vos proches en choisissant l'option « Un livre » sur le site des éditions Prise de Parole. Pourquoi pas? Et il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez même vous procurer des e-books sur smartphone et tablette. Allez-y faire un tour sur prisedeparole.ca. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un auteur pas très connu à cette antenne. Notre invité est acadien, il vient de publier son dernier roman, Des Dick Pics sous les étoiles, vivre son homosexualité au 21e siècle. Un roman qui explore les côtés plus difficiles, plus violents, des nouvelles technologies, ce contact à froid avec les autres, que les nouvelles technologies nous obligent des fois à emprunter. Et oui, notre invité Pierre-André Doucet présente l'homosexualité sous un nouveau jour, sans tabou. Contrairement à son premier recueil, il a voulu cette fois-ci être plus honnête envers lui-même. C'est un livre qui porte un regard franc sur les relations au XXIe siècle. Il brosse un portrait plus honnête d'un certain type d'homme gay et de leur approche des relations et de la sexualité. Pierre-André détient un doctorat en interprétation du piano de l'Université de Montréal, où il a également été professeur invité. Ses projets musicaux l'ont amené à se produire un peu partout dans le monde et lui ont valu plusieurs distinctions. Il est le co-directeur artistique depuis 2012 de l'été musical de Barachois dans son Acadie natale. Des Dick Pics sous les étoiles de Pierre-André Doucet aux éditions Prise de Parole. Mais d'abord, avant de le retrouver avec nous à l'antenne, je vous invite à l'écouter un peu sur son piano avec des jeunes musiciens.
Oui, bonjour. Je voudrais parler à Pierre-André Doucet, s'il vous plaît.
C'est moi.
Bonjour. Ici Eric Adair de CUTFM à Toronto. Comment allez-vous?
Ça va bien, merci. Vous?
Comment vivez-vous votre reconfinement?
Ouais. Ça va. Il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, mais je me tiens occupé.
Oui. Alors, vous avez plusieurs talents, hein. Vous êtes pianiste, vous êtes l'auteur des Dick Pics sous les étoiles, des éditions Prise de Parole que nous avons reçues. Oui. Nous avons reçu une copie et on voulait absolument vous appeler avant la fin de 2020. Mais avant de parler de ce livre, je suis curieux de votre apprentissage, vos appréhensions, vos rêves, en tant que jeune dans votre Acadie natale.
Ok. À savoir...
Comment avez-vous grandi dans ce milieu? Un milieu assez traditionnel pour les gens qui nous écoutent à Toronto et à l'étranger sur le net. Décrivez-nous un petit peu votre enfance. Comment avez-vous grandi et quelles étaient vos appréhensions justement en tant que jeune?
Je dois dire que ce n'était pas nécessairement un milieu si traditionnel que ça. Moi, j'ai grandi à Moncton, donc c'est un milieu urbain. Mais c'est vrai que c'est une plus petite communauté, surtout lorsqu'on compare à Toronto ou à Montréal. Moi, je suis parti à l'âge de 19 ans, mais je le répète à tout le monde depuis que je suis parti et depuis que je suis rentré de nouveau, parce que je suis de retour en Acadie depuis mars de cette année. C'est un très bel endroit où grandir, où est-ce qu'on peut s'épanouir, puis goûter à toutes sortes de différentes activités, puis une vie culturelle très intéressante. Mais c'est certain que, il y avait un certain désir de partir à un moment donné aussi. C'est pour ça que je suis parti pour mes études à 19 ans.
Oui. Est-ce que c'était seulement pour vos études?
Oui, plus ou moins, là. Je sentais le besoin de grandir un peu, puis de me lancer des défis, disons, puis partir un peu à l'aventure, mais principalement c'est pour mes études que je suis parti à Montréal, oui.
Oui. Alors, pour certains, votre dernier livre, Des Dick Pics sous les étoiles, est une dérive, une provocation, un langage assez cru. Vous parlez de sexe, vos sautes d'humeur, vos relations d'un soir, et vos soirées d'excès, vos fantasmes. Pourquoi c'était si nécessaire pour vous de vous mettre à nu?
Juste faire une correction, c'est une œuvre de fiction, donc c'est aucunement moi dont il est question dans le livre. Ce sont des personnages fictifs. Et je trouve ça curieux comme question. C'est une question que plusieurs journalistes m'ont posée à date. C'est certain qu'on met à l'avant le caractère cru, mais à la fois le caractère cru et le caractère poétique de cette œuvre. Mm-hmm. Je pense que pour moi, c'est très important de partir à la découverte de comment ces deux côtés-là, d'une personne, d'une situation, de la vie en général, peuvent coexister et peuvent se nourrir l'un l'autre. Puis je trouve ça curieux parce que j'ai beaucoup de questions de journalistes depuis que le livre est paru le mois dernier. Mais je trouve pas que... Oui, il y a des situations quand même assez crues, mais c'est pas un livre qui est particulièrement qui a un caractère sexuel plus présent que n'importe quel roman qui met en scène des personnages hétérosexuels que j'ai lus dans les derniers 20 ans. C'est un... Je pense que ce qui est... Qui est novateur dans le roman, c'est que il y a une certaine honnêteté par rapport au choix de Marc, le personnage principal, et aux situations qu'il vit. Puis il y a très peu de vernis qui est mis là-dessus. Mais en même temps, c'est un personnage qui peut être écrit, mais qui a beaucoup de soleil et de poésie. Et puis de bonheur dans sa vie aussi.
Et mais vous devez admettre que c'est pas un livre qu'on voit tous les jours. c'est un livre quand même qui sort hors norme, si je peux m'exprimer ainsi. C'est un livre qui pousse aussi à la curiosité, parce que pour les gens hétérosexuels ou bisexuels, qui ne savent pas très très bien le milieu et les fantasmes que vivent des hommes gays, ça peut être aussi un apprentissage. Même, vous avez dit quelque part dans votre roman, c'est un peu une initiation pour les gens qui se cherchent, n'est-ce pas?
Oui, c'est une porte qui s'ouvre sur un nouveau monde pour plusieurs personnes. Ça c'est vrai. Mais de là à dire, je pense pas que c'est nécessairement quelque chose de. Je connais plusieurs personnes, des milléniaux surtout, qui ont lu le roman et qui ne sont pas gays, qui ne sont pas des hommes gays et qui se sont vus reconnaître dans les échanges qui se passaient sur les réseaux sociaux, dans cette relation quand même assez désinvolte et désinvestie aux relations qu'on voit chez certains personnages. Donc, je pense que oui, c'est un nouvel univers pour plusieurs personnes, mais je pense pas que l'œuvre perd en universalité en explorant des personnages aussi bien définis.
Alors, vous dites que ce sont des personnages fictifs, mais est-ce que Pierre-André Doucet, dans son imaginaire, a quelque chose à apporter dans cette écriture?
Est-ce que les personnages qui habitent dans le livre sont des personnages que je connais bien et que je me sentais très à l'aise à écrire et à façonner ces personnages-là? Oui. Est-ce que l'histoire est une autofiction? Non. Puis en fait, c'est une question qu'on, ça aussi c'est une question qu'on demande souvent, puis souvent des auteurs, plus que d'autres artistes, à savoir à quel point est-ce qu'une œuvre de fiction est basée ou suit le parcours de la vie d'un auteur. Puis c'est une des craintes que j'avais lorsque j'ai travaillé ce roman-ci, parce que certains des personnages dans le livre partagent quand même beaucoup de similarités avec ma vie et mon parcours. Moi aussi, j'ai grandi à Moncton, je suis allé à Montréal, je suis revenu à Moncton. Et je pense que j'avais très peur que plusieurs personnes, justement comme vous l'avez fait, penseraient que le personnage principal était basé sur moi. Donc j'ai hésité souvent, surtout dans les premières ébauches, à lui permettre des choix qui ne sont pas nécessairement toujours à son avantage. Oui. Une de mes relectrices au début du processus m'a dit: garde, ça va comme œuvre déjà, mais tu l'aimes trop, Marc. Il faut que tu lui permettes, oui, de faire des erreurs, de faire des mauvais choix. Pour lui permettre de grandir lui aussi, parce que tu peux pas le dorloter puis le garder à l'abri du vrai monde puis le garder à l'abri de tout ce qu'il y a comme personne. Puis je pense que surtout en tant qu'homme gay, puis en tant que créateur gay, souvent on va parfois pas se permettre on va pas permettre à nos personnages d'avoir autant de facettes puis autant d'habiter dans le bien et dans le mal en même temps.
Oui.
Parce qu'on a un souci de représentativité, on a un souci de créer des modèles pour la prochaine génération. Il y a toutes sortes d'autres soucis qui viennent entrer en jeu qu'un créateur hétérosexuel n'a pas nécessairement besoin de se demander les mêmes questions. Et donc, je pense que j'avais justement ces balises-là en place au début du processus, puis ça a été un grand travail pour essayer de les démonter puis de me dire: c'est correct que Marc fasse des mauvais choix, Marc n'est pas toi, puis si les gens pensent que oui, ben ça ne soit plus dans tes mains, puis tu peux pas contrôler ça.
Alors il faut dire aux gens que le livre est assez monté d'une façon abracadabrante. Par exemple, à la page 117, il y a toute une page presque vide, mais il y a « Looking, 973 meters away, hey man, looking », et c'est tout. Et ça me fait penser un peu à ces jeunes qui quittent leur village, qui quittent leur canton, comme on dit en Europe, et puis qui vont dans les grandes villes pour s'aventurer, n'est-ce pas? Parce qu'ils peuvent pas se dévoiler bien souvent dans leur petit village avec leurs parents, leurs amis. Et donc, ils sont dans un bar le soir, la nuit, ils rencontrent des inconnus. Et c'est un peu le langage qu'on utilise, n'est-ce pas? Et vous, vous avez aussi, vous vous êtes déraciné pendant un certain temps. Est-ce que c'était, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'était aussi pour vivre, vous épanouir et vivre votre sexualité?
Non, vraiment pas. Moi, j'ai fait mon coming out quand j'étais ici en Acadie. J'avais 15 ans. Ça a été très bien reçu de ma famille,
ah oui,
de la plupart de ma communauté, de mes amis. Je suis pas parti parce que j'étais pas bien ici ou parce que j'étais pas bien reçu ici. C'est vrai qu'à Moncton, ça a été plus difficile pour plusieurs personnes, surtout plus vieilles que moi, mais aussi de ma génération et un peu plus jeune. Mais moi, j'ai été très chanceux de que mon coming out a été très bien reçu. Les passages auxquels tu fais référence, ce sont en fait des passages qui se passent sur une application de réseautage ou une dating app.
Uh-huh.
Et c'est certain que en ayant une pleine conversation à ce sujet avec beaucoup de gens de ma génération, c'est certain que sur certaines dating apps qui sont qui visent plus une clientèle homosexuelle, le langage peut parfois être beaucoup plus direct, un peu plus cru, et c'est la notion de dick pic dans le titre vient un peu de ce côté-là, mais c'est pas la lecture de ces extraits-là dans les réseaux sociaux. Encore une fois, lorsque j'ai parlé à beaucoup de mes amis hétérosexuels, hommes et femmes, il y en a plusieurs qui ont reconnu quand même plusieurs passages dans ces extraits-là comme quelque chose qui se vivait également chez les hétérosexuels. C'est certain que c'est un livre dans lequel moi je me serais vu refléter un peu plus que la littérature que j'ai lue, qui était beaucoup plus une littérature écrite par des hommes cisgenres hétérosexuels blancs d'origine européenne. C'est certain qu'on a lu d'autres choses. On a lu du Anthony Maillet, du Amin Malouf, du Isabelle Allende. Oui, si j'avais eu 15-16 ans, j'aurais voulu lire ce livre ici. Je sais que dans certaines écoles, dans certains milieux, ça créerait peut-être une tolide d'essayer d'intégrer un livre comme celui-ci à un cursus, parce que le titre, comme on dit, peut être très provocateur. Mais en même temps, comme vous dites, c'est une réalité dans laquelle plusieurs jeunes se verront.
Oui.
Et qui peut être très instructive pour... C'est non plus pas nécessairement seulement la dynamique de l'identité sexuelle qui apparaît chez le personnage principal, qui est Marc, non plus. On parle ou on traite beaucoup d'identité ethnique. Il y a plusieurs des conflits centraux qui apparaissent chez lui qui ont par rapport à ses responsabilités envers sa famille, son désir de s'épanouir chez soi. Donc, il y a plusieurs niveaux d'interprétation du livre aussi. C'est pas uniquement un livre qui parle d'un jeune homme qui baise. Je pense, pour moi, le livre est beaucoup, beaucoup plus large que ça.
En effet. On vit en temps de confinement. Il y a beaucoup de gens qui me disent maintenant on ne peut plus sortir, aller dans des bars, dans des pubs. Et je passe mon temps, Eric, à écrire. Et là, ils ont découvert tout d'un coup ce talent, cette passion, cet amour de l'écriture. Est-ce que vous diriez que ce confinement, finalement, peut aussi apporter les jeunes ou les gens en général au lieu... Parce que des fois, dans des bars, dans des pubs, c'est assez platonique. On se prend pas nécessairement au sérieux, mais quand on doit écrire sur les réseaux sociaux et se raconter... et aussi se donner à l'autre, est-ce qu'il n'y a pas quand même un bienfait dans ce confinement pour que les gens arrivent à s'exprimer et finalement à passer à l'écriture, quoi?
Je pense qu'il y a une distinction à faire certainement entre l'écriture sur un réseau social puis l'écriture comme acte,
oui.
acte littéraire ou comme acte pour soi. C'est certain qu'il y a eu un remaniement chez certaines personnes de ce qui est prioritaire et de ce à quoi on accorde du temps. Je peux vous dire que il y a eu plusieurs personnes pour qui ce questionnement-là ne se passe pas parce qu'ils ont trop de difficultés à maintenir un travail, à se maintenir en sécurité, à payer son loyer. Et puis chez beaucoup d'artistes aussi, c'est une des grandes pertes de cette pandémie ici, c'est que moi certainement, mais plusieurs autres de mes collègues aussi, on a perdu 6 mois, un an et demi de travail, et puis tout est cyclique dans le monde culturel, donc c'est pas comme si on peut se reprendre immédiatement dès que le vaccin arrive. Il y a personne qui est en train d'embaucher ou de faire des projets à long terme, ou si on en fait, ça se fait remanier, repenser, annuler, recéduler constamment. Donc moi, je dois vous dire que oui, j'ai passé un certain temps sur des projets créatifs. Ça a été très difficile pour moi personnellement et pour plusieurs de mes collègues, je le sais, de trouver ce temps-là et ce silence intérieur d'être capable de créer parce que l'incertitude qui plane est trop importante. Cela étant dit, il y a plusieurs personnes qui travaillent maintenant de la maison, qui ont été capables de maintenir un emploi, qui ont maintenant plus de temps libre, puisqu'ils ne sortent pas, qu'ils ne voyagent pas, et qu'ils se retournent vers l'écriture, vers le tricot, vers la peinture, les projets, le jardinage, les projets autour de la maison. Puis ça, je trouve ça fabuleux. Ils grand bien leur en face. Puis je trouve que c'est bien que les gens sont en train de reconnecter avec des formes de loisirs et des disciplines artistiques qui prennent et qui permettent un temps de réflexion. Parce que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui était plus difficile à permettre dans nos vies en général avant la pandémie. Et j'espère que ce changement-là de focus, c'est une des bonnes choses qui pourrait peut-être perdurer au-delà de la fin de cette pandémie.
Oui, des dick pics sous les étoiles de Pierre-André Doucet, auteur, musicien et co-directeur, madame, monsieur, co-directeur artistique du Bar à Choix Summer Music. En vous regardant jouer du piano, ça me donne du vertige. Vous avez un talent extraordinaire et ce qui est formidable, vous avez autour de vous des jeunes talents. Comment faites-vous? Alors parlez-nous un petit peu de ce festival parce que ça se passe seulement à Moncton, hein?
De Bar à Choix se passe à l'église historique de Bar à Choix, qui est la plus ancienne église de bois acadienne en existence.
Mm.
Et elle a été érigée en 1824, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un tout petit lieu qui tient habituellement environ 200 auditeurs.
Oui.
Et à tous les étés, on fait une série de concerts de musique classique dans ce lieu qui est absolument phénoménal. On fait une douzaine de concerts à tous les étés. Cette année, évidemment, à cause de la pandémie, on a dû tout repenser. On a fait plusieurs concerts en virtuel et puis on a été capable de présenter en fait 6 concerts devant public. Mais ces concerts-là se sont donnés à Moncton dans un lieu qui était plus grand et donc qui permettait la distanciation de l'auditoire. Étant donné que l'église ne permettait pas.
Alors, ce sont des concerts classiques, hein?
Oui. Exclusivement de la musique classique, on fait beaucoup de musique contemporaine aussi.
Oui.
Quelquefois, on invite des artistes de musique du monde, de jazz, de musique baroque, mais sinon, le grand focus demeure la performance et la création de musique classique.
Alors, mais comment faites-vous pour aller dénicher ces talents? J'ai vu des jeunes musiciens vous accompagner, il y en a qui sont même d'origine asiatique. Est-ce que ce sont des gens qui vivent dans votre région ou bien ils proviennent un peu de partout à travers le Canada?
Cet été, nous avons été très chanceux de pouvoir présenter plusieurs artistes qui étaient ici au Nouveau-Brunswick ou bien au moins dans la bulle atlantique.
Mm-hmm.
Plusieurs personnes qui travaillent ici ici à l'année longue. Plusieurs autres personnes qui se sont retrouvées ici parce que, comme moi, c'était des artistes qui menaient des carrières à l'international et puis qui n'avaient pas vraiment d'appartement ou de base fixe, qui habitaient dans leur valise, comme moi. Donc, cette année, ça a été plutôt des gens qui étaient basés ici. Au virtuel, on était capable de présenter des artistes qui étaient présents ailleurs au Canada. Mais habituellement, dans une saison régulière, on a, je dirais, environ la moitié des artistes proviennent du Canada atlantique et puis l'autre moitié viennent du Québec, d'Ontario, d'ailleurs au Canada, aux États-Unis.
Et avec votre permission, nous allons partager les liens de votre page Facebook. Il y a des clips fantastiques. En tout cas, vous êtes extrêmement habile et on a l'impression que vous vous laissez transporter, vous êtes dans un autre monde quand vous jouez au piano.
Merci beaucoup.
Écoutez, c'est tout un honneur de vous avoir reçu à notre antenne. Vous avez des projets, vous avez des rêves pour 2021 ou un scoop à nous partager?
Non, pas vraiment. Pour le moment, ma vibe pour 2020 a vraiment été de rétrécir mon regard et puis de me donner des projets pendant 3, 4, 6 semaines à la fois. Parce que plus loin que ça, c'est impossible de planifier pour le moment. Le cycle de planifier, préparer et puis de voir des projets annulés continuellement oui. pendant toute l'année, ça a été très épuisant. Donc, pour le moment, je travaille sur quelques petits projets d'écriture, quelques petits projets musicaux, et puis j'espère que je suis capable de payer mes factures avec ça pour le moment. Et puis,
est-ce que vous avez déjà visité Toronto, la belle ville reine?
Oui, plusieurs fois. La dernière fois que j'ai joué à Toronto, je pense que c'était en 2017 ou 2018.
Pierre-André Doucet, tout un plaisir et nos bons voeux de joyeuses fêtes et que la force soit avec vous.
Merci à vous aussi.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.
Y'en a qui fument un petit joint, question de me sourire. Y'a rien d'autre que tu dis. Tu maudis pas dans la vie. Tu maudis pas dans la vie. Tu maudis pas dans la vie. Des belles soirées du bon passé, archanti puis à danser. Moi j'ai vu que t'es gêné, toi qui savais pas parler. À la fin de la soirée, on croirait que c'est best bustlé. Y'a rien là parce que tu dis.
On prend la molle et tu maudis pas dans la vie. Tu maudis pas dans la vie.
Belle vie, celle d'être en... feuille morte me rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, buena loco.
Otra vez la cosa, otra vez la cosa, ding-a-dong.
No le dan,
ding-a-dong.
Écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les gens de mon quartier, mes amis, ma famille. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, on doit tous porter le masque.
Tous contre un, tous contre la COVID-19.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Kader, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO, le Département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto, la chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo, les éditions Prises de parole, Educ Nation, Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Beige, les tsurutris, l'opéra élégant. Et Beethoven, la musique de télésérie Les Dames de Cœur, Un signe de feu, Juliette Pomerleau, l'album récent Les Quatre Saisons, autant de pièces de ce musicien qui a marqué le Québec musical. Et ce musicien, c'est André Gagnon, tout au long. André Gagnon, c'est en fait 50 ans de carrière comme pianiste et compositeur. C'est un artiste éclectique et prolifique qui bouscule les frontières entre la musique classique et la musique populaire. Mais André Gagnon, c'est aussi une cinquantaine d'albums, de la musique pour le cinéma, le théâtre, la télévision, la mise en musique de poèmes d'Émile Méligan. C'est aussi des chansons pour Marie-Denise Pelletier et Marie-Michel Desrosiers. C'est des tournées de par le monde entier, en plus de parcourir le Canada de l'île de Vancouver à Terre-Neuve. Alors, il semblait naturel de rendre hommage à toutes ces musiques qui ont accompagné nos vies et de souligner son apport à la musique d'ici. Voici ce que propose le spectacle musical Les Quatre Saisons d'André Gagnon. Ici, c'est André. André Gagnon revisité par le pianiste Stéphane Aubin du groupe Quartango. Aubin qui est aussi auteur, compositeur, interprète, arrangeur, directeur musical et bien sûr pianiste, accompagnateur d'artistes reconnus d'ailleurs comme Charles Aznavour, Michel Rivard, Marie-Josée Laure et il a aussi collaboré régulièrement avec Luc Plamondon. Stéphane Aubin s'est entouré de l'ensemble et de la comédienne et chanteuse Catherine Fortin qui va chanter des airs de l'Opéra Mélican, du légendaire et splendide spectacle L'Érac chante Mélican et aussi quelques surprises.
Et oui, très bel hommage à André Gagnon, décédé récemment à Québec. Le Canada vient de perdre un très grand pianiste, un très grand musicien. Là, nous entendons actuellement un extrait d'un album que j'aime particulièrement, Car Samba, André Gagnon, hommage. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Pourquoi des fonctionnaires noirs poursuivent le gouvernement fédéral du Canada? Une affaire qui fait grand bruit depuis quelque temps, surtout dans les médias, les réseaux sociaux. Des fonctionnaires noirs poursuivent le gouvernement canadien pour 900 millions de dollars en dommages, intérêts, afin d'indemniser les fonctionnaires noirs pour les difficultés mentales et économiques auxquelles ils ont été confrontés au fil des ans. La fonction publique canadienne se présente comme une organisation non partisane fondée sur le mérite et représentative au service de tous les Canadiens. C'est un principe très honorable, mais pour bien de Canadiens et Canadiennes, surtout noirs, la réalité est complètement différente. Malheureusement, rapport après rapport, et malgré les promesses de Justin Trudeau depuis qu'il est au pouvoir, le gouvernement canadien n'a pas bougé son petit doigt pour réparer ces injustices et veiller à ce que les discriminations s'arrêtent dans la fonction publique. Depuis des décennies, la plupart des fonctionnaires noirs sont restés relativement silencieux sur leur expérience, mais cela a changé au cours de l'été 2020 avec la visibilité grandissante du mouvement Les Vies Noires Comptent, Black Lives Matter. Des rapports nous démontrent que les défis sont encore plus grands si vous êtes une femme noire dans la fonction publique. Comme nous dit cette auditrice, des fois tu postules, tu passes le concours, mais tu n'obtiens pas l'emploi. Puis tu te poses la question, est-ce que c'est parce que je suis une femme noire? La défense du gouvernement, eh ben, si le gouvernement fédéral estime qu'il y aurait entre 4 000 à 5 000 fonctionnaires noirs, leur nombre est incertain, puisque plusieurs évitent de s'identifier comme tels pour ne pas nuire à leurs chances d'avancement. Malgré les lois sur l'équité en matière d'emploi et ses plans de diversification de la main-d'œuvre fédérale et les mesures pour éliminer les obstacles, rien ne fonctionne à ce jour pour les Noirs dans la fonction publique. Donc, selon moi, c'est un grave problème. 900 millions de dollars en dommages et intérêts, est-ce réaliste ou c'est plutôt un geste symbolique? On en parle tout de suite avec notre correspondant Alain Babineau, qui a travaillé pour la Gendarmerie Royale du Canada, la GRC, pendant 28 ans. Il travaille aujourd'hui pour le Centre de Recherche Action sur les relations raciales à Montréal à titre de conseiller sur les questions de profilage racial et de discrimination. Allez, on l'appelle tout de suite.
Allô?
Oui, je pourrais parler à Monsieur Alain Babineau, s'il vous plaît. Bonjour, ici Eric Tader, bienvenue à CUTFM Toronto, merci d'avoir réagi à notre message.
Pas de problème.
Alors, votre nom est associé à un article dans le journal La Presse du 4 décembre. On peut y lire « Discrimination systémique dans les embauches, les fonctionnaires noirs poursuivent le gouvernement canadien, les plaignants réclament 900 millions en dommages intérêts pour des difficultés mentales et économiques auxquelles ils ont été confrontés au fil des ans. Mais si je crois bien fermement, comme vous le savez, que la discrimination systémique existe dans plusieurs sphères de la société canadienne, et d'ailleurs il y a plein de rapports et de chiffres pour le prouver, pensez-vous que c'est réaliste ou c'est tout simplement une démarche symbolique pour ces gens?
Une démarche quoi? J'ai pas
saisi symbolique. Une démarche symbolique.
Une démarche symbolique?
Oui.
pas une démarche symbolique. C'est pas une démarche symbolique du tout. C'est très sérieux. Les gens qui ont souffert à travers la discrimination systémique, on remonte même dans les années 70, et aussi les systèmes qui ont été mis en place ou qui n'ont pas été mis en place justement pour combattre le racisme systémique requiert non seulement une compensation pour les individus, mais aussi un investissement dans la déconstruction, si on veut, de ces systèmes-là et l'établissement de mesures, de systèmes de surveillance pour s'assurer que ça ne continue pas. Alors, 900 millions de dollars, mon ami, mon cher monsieur, c'est encore une fois, c'est pas de l'argent qui va nécessairement aller dans les poches des individus. Ils vont peut-être en avoir certains montants qui vont être compensés financièrement pour leurs dommages. Mais c'est aussi pour mettre en place, comme je vous dis, ces systèmes démantelés et puis de mettre en place des systèmes pour pallier à la problématique systémique, pour s'assurer que c'est fini.
Mais il y a eu des promesses, hein, même de la part de notre cher Premier ministre, M. Justin Trudeau. Il a avoué à différentes reprises publiquement qu'il y a un racisme anti-noir, je dis bien anti-noir. Alors, cette année, on a vécu quand même des bouleversements, pas seulement au niveau sanitaire, mais aussi au niveau des relations raciales, il faut bien le dire, pas seulement au Canada, mais aux États-Unis, en Europe, partout à travers le monde. Il y a eu écho après surtout le meurtre de George Floyd. Et pensez-vous que c'est ces mouvements qui sont en train de changer la donne maintenant? Et est-ce que pensez-vous que, bon, je sais, il y a aussi l'Alliance de la fonction publique du Canada qui appuie l'action en justice menée par près de 30 000 fonctionnaires et qui s'identifient comme noirs. Et pensez-vous que maintenant ça va peut-être apporter des fruits et une profonde réflexion dans toutes les sphères du travail au Canada?
Écoutez, notre question a deux volets. Le premier volet, c'est les questions l'activisme, alors les marches et puis les protestations, etc., qui se sont faites partout dans le monde. Mais il faut que ça soit suivi avec des changements de loi. Okay? Il faut changer la loi, il faut changer la pratique. Et puis ça, ben ça se produit seulement lorsque il y a historiquement, on peut pointer par exemple au droit civil aux États-Unis. Alors c'est pas juste les marches qui ont fait changer l'ordre des choses aux États-Unis et puis améliorer le sort des Noirs américains, mais c'est les poursuites par le NAACP, Thurgood Marshall, pour justement challenger et puis défier justement les lois qui sont mises en place. Alors, oui, le mouvement, comme vous l'avez mentionné, c'est sûr que ça l'a, comment je pourrais dire, ça l'a mis une lumière, jeté une lumière sur le problème qui existe depuis des générations. On ne parle pas de quelque chose qui vient de se passer. Mais je pense que, étant donné la restriction, le confinement, etc., les gens ont été forcés de voir le meurtre de George Floyd en ligne, et puis ça a éveillé beaucoup de... Pas les Noirs, ça n'a pas réveillé les Noirs, parce que les Noirs, on le crie depuis des décennies, mais je pense qu'il y a plusieurs personnes, des Blancs, qui ont été éveillés, qui ont été réveillés, c'est-à-dire, à leur problématique. Alors, oui, les mouvements, ça met de une lumière sur les choses, mais pour que ça soit suivi par des changements radicaux, et puis ça c'est normalement et historiquement, c'est devant les tribunaux.
Oui, et il y a des précédents, hein, d'ailleurs, je pense qu'il y a un cas, un certain monsieur Turner, je pense que c'était en Colombie-Britannique, hein, qui avait gagné sa cause, mais ça avait pris près de 10 ans, je pense.
Oui, c'est ça. Et tu sais, malheureusement, malheureusement, il y en a une série de cas comme ça, mais normalement, c'est pas nécessairement des cas de discrimination systémique. Souvent, c'est des cas individuels de racisme. Oui, il y a eu des cas systémiques, mais encore une fois, est-ce que ça a été suivi par des changements radicaux des systèmes qui ont produit la discrimination systémique ou la discrimination individuelle des individus? La réponse est non. Alors, c'est pour ça aussi qu'on met de l'avant cette poursuite recours collectif, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement demander des compensations monétaires pour les victimes, mais c'est pour mettre en place des changements radicaux.
Oui. Et au fond, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, parce que nous recevons depuis des années beaucoup de commentaires, beaucoup de même confidentiels, parce que les gens ne sont pas prêts à aller sur la place publique parce qu'ils ont peur des représailles, vous le savez. Et on sait qu'il y a finalement, il faut qu'il y ait un changement de pouvoir, de mentalité, à la base même du changement. Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois sur l'équité en matière d'emploi au niveau fédéral, au niveau provincial. Dans certaines provinces, il y a une certaine volonté d'avoir la diversité. Mais c'est finalement les individus qui sont au pouvoir qui mènent ce système de discrimination systémique qui perdure pendant des années. C'est la politique des petits copains qui perdure pendant des siècles, n'est-ce pas?
Oui, puis vous n'êtes pas un des petits copains que vous faites référence. Alors, écoutez, premièrement, je vais adresser les lois sur l'équité à l'emploi, etc. C'est des lois qui sont sans dents. OK? Il n'y a aucune espèce de sanctions sérieuses ou d'imputabilité sur les gestionnaires qui ne mettent pas en place des procédures pour s'assurer que le racisme systémique n'existe pas dans leur institution. Et puis lorsqu'ils font face à des poursuites, alors c'est des appels en cours jusqu'à la Cour suprême dans certains cas. Et puis, malheureusement, le moyen des individus qui subit de discrimination raciale n'a pas les moyens de se défendre jusqu'en Cour suprême. Alors, vous voyez, on est en face de Samson et Goliath.
Mais,
vous voyez? Je me mélange de Goliath et c'est qui le...
Écoutez, le 19 novembre dernier, l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, a rendu un rapport accablant de plus de 150 pages intitulé « Rêve brisé, vie brisée ». Après avoir évalué des milliers de demandes d'indemnisation et mené des centaines d'entrevues, la professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, Louise Langevin, se dit découragée par la culture qui règne au sein de la GRC, et ce rapport dont on a parlé à notre émission démontre clairement que la culture de la gendarmerie royale du Canada est toxique et tolère les attitudes misogynes, homophobes de certains de ses dirigeants et de ses membres. Vous-même, monsieur Alain Babineau, affirme avoir été victime de racisme à de très nombreuses reprises durant vos 28 ans de carrière à la GRC, et votre histoire n'est pas unique. Pensez-vous qu'il est temps que les personnes affectées exigent des compensations à la GRC?
Qui est nommé dans notre recours collectif. Alors, c'est le gouvernement au complet, mais on demande des changements dans toutes les institutions fédérales. Alors, oui, la GRC, le rapport Bastarache, comme vous l'avez mentionné, fait mention de problèmes au niveau homophobe, misogyne et aussi raciste. Alors, tout ce que vous avez vu dans le rapport Bastarache, les recommandations, vous n'avez tout simplement qu'à changer le nom femme pour personne racisée, Et puis, vous avez exactement le même type de rapport, moins, bien entendu, les rapports d'abus sexuels, etc., mais les abus demeurent les mêmes. Mais la GRC n'est pas unique. C'est ça qu'il faut garder en tête. La GRC n'est pas unique. C'est à la grandeur du service, des services publics fédéraux, mais pas juste fédéraux, aussi provinciaux, municipaux. Alors, c'est lorsqu'une personne rentre dans la fonction publique, que ce soit au niveau provincial ou fédéral ou même municipal, ce sont des types de comportements qui se reproduisent.
Oui.
Bon, faut pas être...
Oui, nous avons malheureusement très peu de temps, mais on voulait absolument vous avoir avant la fin de cette année. Quelle année, hein, l'année 2020. Oui. Alors, pour conclure, je rappelle aux auditeurs, les caucus des fonctionnaires noirs souhaitent également s'assurer que le gouvernement respectera ses engagements envers la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Cette décennie s'échelonne de 2015 à 2024. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette histoire. Mais en tout cas, celui qui a prononcé, madame, monsieur, ce constat est notre invité, Alain Babineau, qui a travaillé pour la Gendarmerie royale du Canada pendant 28 ans. Il travaille aujourd'hui pour le Centre de recherche Action sur les relations raciales à Montréal à titre de conseiller sur les questions de profilage racial et de discrimination. Cher ami, un grand merci de nous avoir accordé ce temps. Nous vivons un moment historique avec cette crise sanitaire. Au moins, nous sommes pour une fois tous égaux. Peut-être qu'il y a des leçons à tirer de cette crise. En deux mots, quels sont vos rêves, vos vœux, vos souhaits pour 2021?
Des changements fondamentaux et des changements de culture pour que tout le monde soit traité du même pied.
Oui. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie encore une fois infiniment. C'est toujours un plaisir, hein, de vous avoir à notre antenne. J'espère que vous serez plus régulier en 2021. Je sais que les conditions sont pas toujours faciles, mais on vous remercie pour votre inlassable combat pour la justice sociale, pour les droits des personnes exclues dans divers milieux d'emploi, et surtout votre combat, votre ténacité pour lutter contre les violences policières partout au Canada. Quand on regarde le récent scandale qui vient de se dérouler en France, et ce malgré les marches, les protestations après le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Donc, on voit qu'il y a du travail à faire encore et encore et encore. Une fois, merci mille fois et santé, bonheur et nos voeux les meilleurs pour 2021 et que la force soit avec vous, Monsieur Babineau.
Merci beaucoup et vous pareillement. Bonne année.
Au revoir.
Au revoir.
Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne des radios.
Merci beaucoup, hein, pour votre émission. Je pense que c'est une émission qui est importante et puis qui donne vraiment une voix importante à des gens qui font des choses extraordinaires. Donc bravo et de continuer à durer également. Et puis on se parle très très bien.
Chaque semaine, retrouvez l'Afrique dans toute sa diversité et sa richesse avec des reportages de nos correspondants sur le terrain et des interviews de personnalités phares. Afrique Hebdo vous propose un décryptage de tout ce qui fait l'actualité sur le continent, société, économie, sport et culture. On vous parle des grandes tendances, de projets novateurs et de parcours exceptionnels. Je vous donne rendez-vous pour Afrique Hebdo sur France 24 et France24.com.
C'est la première fois que RFI est massivement en Haïti dans une grande opération de décentralisation avec Claire Hédon pour Priorité Santé, avec Yvan Amar pour La Danse des Mots, avec Anne-Cécile Bras pour C'est pas du vent, mais aussi avec la tranche d'info Haïti-Amérique qui vient d'être créée il y a quelques mois sur la chaîne. C'est un moment important parce que nous allons à la rencontre d'auditeurs qui sont francophones et qui ont un rapport assez passionnel, comme les auditeurs africains finalement, avec cette radio qui, certains disaient, les distrait de leur quotidien. Et quand on est énervé localement, on va écouter RFI. C'est une radio qui ouvre des portes, qui ouvre des horizons et qui met les pendules à l'heure, disait un auditeur.
89.5 FM, on the left side of your dial for the right side of your brain. We are the sound and news of your city. Visit CIUT.FM to donate. CIUT 89.5, Toronto.
Attention, prêt, déguster. FCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur le Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses, équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
Cela veut dire que nous avons notre mot à dire. Cela veut dire que nous avons notre place au sein de ce syndicat. Alors, il est totalement inadmissible que nous payons les cotisations comme les autres et que nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité.
Mmh.
C'est ça l'absurdité. Il nous est que le syndicat, que là, il faut nous expliquer pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des postes de responsabilité. Qu'ils nous le disent. Il y a de la compétence au sein des enseignants et enseignants en Corontarien issus de la diversité. Il y a de la matière grise, il y a de l'expérience. Il y a des gens qui ont des connaissances, qui veulent les valoriser aussi. Nous ne demandons que d'avoir notre place. Nous ne voulons que être valorisés à notre juste valeur. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous voulons prendre la place qui nous revient de droit. Nous payons des cotisations comme tout le monde. Nous y avons droit. Nous avons le droit de participer à la vie de ce syndicat. C'est ce que nous réclamons. Pourquoi nous sommes exclus de la vie, de la gestion de ce syndicat? Pourquoi? Qu'on nous explique pourquoi? Alors qu'il y a de la compétence, alors qu'il y a des connaissances, alors qu'il y a la matière grise au sein des enseignants et des adversaires, nous dirait.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles. Hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participez à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmelade?
Vous regardez RTL.
Bonjour Valérie Giscard d'Estaing.
Bonjour Mademoiselle Jeanne, bonjour Monsieur Calvé.
Mm-hmm.
Et merci de me donner la parole sur votre poste de radio.
Ah bah écoutez, c'est avec plaisir Monsieur le Président, nous vous écoutons.
Je suis venu pour pousser un coup de gueule sur les programmes télé.
Ah.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y en a que pour le football en ce moment.
Oui.
On nous déprogramme toutes nos séries. Heureusement qu'il nous reste Equidia Life, KTO, Vivolta et TV Brel, et Frisson Extrême. Je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne que j'ai découvert par hasard, en entrant mon code parental.
Hein. Oui.
Il y a beaucoup de films des pays de l'Est.
Oui, bon, alors revenons à vos programmes de télévision. C'est normal qu'ils soient chamboulés. Tant quand vous étiez ministre des Finances, vous avez joué au foot. foot.
C'est vrai, bonne mémoire. Bon souvenir, je sais, M. Calvi. Vous avez vu les photos, hein. Bon souvenir, vous avez vu les images où je cours en short.
Tout à fait.
Ça dépassait. C'était le 4 juin 1913, à Chamalières. En tant que maire, j'ai organisé un match de football. Le conseil municipal de Chamalières contre l'amicale des commerçants du centre-ville. Alors sur la touche, il y avait Marlène Jobert, qui était un peu la mascotte de notre équipe. Elle était mignonne. Hein. À la dernière minute, j'ai égalisé sur pénalty. Alors après, je me dis, la fiesta, d'une nouba. Alors Marlène Jobert, elle est venue me féliciter sous la douche. Avec sa petite chatrousse. C'est tout trop, ça fait mal. Et là, qu'est-ce qui arrive? D'abord, pour faire une surprise, Mireille d'Arc, avec son chien, la pauvre chatte à Marlène, elle a rendu folle. Mireille d'Arc, le seul d'abdé, les babines baveuses, elle s'est bouffée, ça,
bon, ben, merci, Valérie Giscard d'Estaing, merci.
Et vous écoutez Popo de Show, toute la diversité du monde sur votre fréquence, sur CUT 89,5 FM. Merci au Préfo, merci à tous ceux et celles qui nous appuient, qui ont contribué si généreusement à notre dernière campagne de levée de fonds. Merci aux éditions Prise de Parole. Si vous pouvez le faire, je sais que certains n'ont pas nécessairement les moyens, mais pour ceux et celles qui peuvent le faire encore, nous sommes rendus à $80,000, il nous reste $20,000 pour atteindre notre objectif, c'est-à-dire $100,000. Allez sur notre site cut.fm et cliquez sur le bouton Donate et n'oubliez pas de mentionner Popo Russo. Encore une fois, merci à tous ceux et celles qui ont contribué si généreusement au succès de notre campagne de levée de fonds. Et nous entendons actuellement toujours André Gagnon, hommage André Gagnon, et c'est l'album Rendez-vous. Hommage cette fois-ci à Anne Sylvestre, sa carrière, ses chansons, son public. Et oui, la grande chanteuse Anne Sylvestre s'en est allée à l'âge de 86 ans, après une longue carrière débutée à la fin des années 50. Cette artiste engagée a écrit plus de 400 chansons, signant des textes féministes, mais aussi des contes pour enfants, rassemblant ainsi toutes les générations. Bien que son succès n'ait pas été retentissant, Anne Sylvestre était un monument à sa façon. Elle fut l'une des premières femmes, avant Barbara, à écrire et à chanter ses propres chansons, à une époque où la plupart des chanteuses françaises se contentaient d'être des interprètes. La chanson française, donc, vient de perdre un autre de ses phares. Pour lui rendre hommage, nous vous proposons d'écouter quelques extraits d'une rencontre émouvante où la chanteuse se raconte avec simplicité et honnêteté. C'était lors de la manifestation « Le Conservatoire en chanson » en février 2015, une présentation de France Inter.
Bonjour. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse.
Je suis heureuse d'avoir fait ce métier parce que ça m'a permis déjà d'écrire des choses que je pense bien, qui me satisfont, et puis justement d'apporter un petit peu quelque chose aux gens, de rencontrer des gens, de rencontrer des publics. L'intérêt, c'est justement d'avoir acquis des auditeurs, des spectateurs très tôt, et puis ils me suivent. Enfin, il y en a beaucoup qui me suivent, puis il y en a d'autres qui viennent en plus.
4 et 2 font 6, 3 et 3 font 6 aussi, 6 et 2 font 8, jusqu'ici pas de soucis, 8 et 3 font 11, c'est comme du bronze, continuez dans sans moi, je ne vous contredirai pas.
Les chansons pour les enfants, les fabulettes, Je les ai écrites tout le long, le même temps que les autres, mais je ne les ai jamais chantées sur scène et j'ai jamais voulu le faire. C'est pas la même chose du tout, je crois, de chanter pour les enfants. C'est une autre démarche. J'avais pas envie non plus d'être cataloguée chanteuse pour enfants. J'ai fait ma carrière avec les autres chansons, celles dites pour les adultes. Je voulais sans doute m'élever contre ces gens qui sont tout pleins de certitudes pour dire oui, j'aime ces gens qui doutent, qui sont comme ça un peu à côté, qui sont pas sûrs d'eux, qui ont peur qu'on les croit capables de juger, ceux qui sont là pour les enfants. Et puis un jour, tout d'un coup, il y a eu des gens qui ont fait attention à cette chanson-là, qui se sont peut-être identifiés. Ou moi, je savais pas qu'il y avait autant de gens qui doutaient. Ça a donné ce que je pense de la chanson, c'est-à-dire, c'est un petit peu une façon de dire aux gens, vous n'êtes pas tout seul. Et c'est devenu une des chansons préférées, oui, des gens qui m'écoutent. C'est drôle, c'est bizarre.
J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci.
Moi, je vais continuer. Je vais continuer à chanter, à écrire des chansons, à faire des spectacles, tant que je pourrai, tant que j'en aurai envie surtout, et puis tant que les gens auront envie de venir m'écouter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant. C'est maintenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chanson que je préfère, c'est la prochaine, celle que je vais écrire bientôt. Voilà.
DJ Flemix, pétez ça.
Couleur tropicale. Un remix de DJ Flemix des Antilles.
Et oui, madame, monsieur, nous avons décidé de vous transporter dans les Antilles, pays chaud, la plage, le soleil, eh oui, la verdure. Et donc, juste pour vous transporter un peu dans un monde virtuel. Comme vous le savez, nous sommes toujours en mode virtuel depuis le début de cette pandémie, et c'est comme ça encore pour quelques temps. Beaucoup d'entre nous vivront un temps des fêtes confinées. Nous aurons une pensée bien spéciale cette année à ceux et celles qui sont dans le besoin, ceux et celles qui sont au chômage forcé. Je vous rappelle que la banque alimentaire de Daily Bread Food Bank vous remercie. Grâce à la générosité de nombreux Torontois, la banque alimentaire de Toronto a récolté plus de, tenez-vous bien, 25 000 livres de nourriture pour les gens dans le besoin en cette saison des fêtes. Encore merci à ceux et celles qui ont fait un don et grand merci à tous les bénévoles. Le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne, le CREFO, notre partenaire, vous propose un nouveau podcast, Quoi de neuf à les cafés du CREFO. Emmanuelle Le Pichon, directrice du CREFO, rencontre Marie-Christine Koch-Escal. Elle est professeure à l'Université Utrecht aux Pays-Bas et elle discute d'histoire, de culture, de langue française, de francophonie, de communication interculturelle, de recherche, de l'éducation. Pour en savoir plus, tapez Quoi de neuf les cafés du Greffo dans le moteur de recherche web ou visitez notre site popourichaud.com. Le Centre Canada Méditerranée est heureux de vous annoncer que le livre de sa directrice Elisabeth Sabiston sur les romans récents du fondateur de ce centre, Eddy Bourawi, vient d'être publié en anglais par Brill Rodopi, une maison d'édition néerlandaise œuvrant depuis 1683 aux Pays-Bas. Le livre intitulé Transcultural Migration in the Novels of Eddy Bourawi et New Ulysses
analyse ce thème récurrent de la migration ou de l'immigration transculturelle dans la fiction d'Eddie Bouraoui. La maison d'édition Brill vous offre une réduction de 25% à toutes les commandes reçues au plus tard le 31 décembre 2020, autrement dit pour les fêtes de fin d'année et du jour de l'an. Pour plus d'infos, vous aurez tous les liens sur notre site popourishow.com et ainsi que le banc de commandes pour passer votre commande, peut-être un beau cadeau, voilà, à des gens que vous aimez à Toronto ou ailleurs. Congrats et toutes nos félicitations, professeur Elisabeth Sabiston, je vous rappelle qu'elle est professeure émérite à l'Université York, et aussi nos salutations, nos bons voeux. Nos félicitations au professeur Eddie Bouraoui pour cette belle reconnaissance. Je vous invite à visiter le site de ce grand jongleur, inventeur de mots, eddiebouraoui.com. Je répète, eddiebouraoui.com, un site qui vous aidera à mieux comprendre la dimension internationale de ce poète torontois, ancien professeur de l'Université York, grand ami et membre de la radio depuis très longtemps. Vous y découvrirez des thèmes sur la migration, incluant la transcendance des frontières culturelles. Enfin, vas-y, allez-y, eddiebouraoui.com. Et comme nous sommes toujours en mode virtuel, nos moyens sont extrêmement limités pour de grandes opérations radiophoniques. Cependant, la maison d'édition Prise de Parole vient à notre secours. Merci mille fois. Et si tout va bien, nous recevrons avec plaisir et en exclusivité deux auteurs dimanche prochain, le 20 décembre. Première invitée, Sonia Malaborza. Tour à tour, lectrice, traductrice, incubatrice d'idées, Sonia prend plaisir à accompagner des auteurs dans l'exercice de leur profession. Elle travaille également depuis peu aux éditions Prise de Parole comme conseillère littéraire pour les provinces de l'Atlantique. Deuxième invité, l'écrivain et musicien Cree Thompson Highway du Manitoba, qui a écrit le best-seller Champion et Only Me Too, traduit par Prise de Parole en 2019. Lauréat de prix littéraires, membre de l'Ordre du Canada et détenteur de plusieurs doctorats honorifiques, Thompson Highway est une voix de l'espérance. Ses œuvres sont enseignées dans les écoles et universités du monde entier. Nous remercions chaleureusement le concours et la précieuse collaboration de la maison d'édition Prise de Parole pour cette réalisation. Et enfin, dès dimanche prochain, bilan de fin d'année en partenariat avec nos médias partenaires, à ne pas manquer. Canadien sur deux, je vous rappelle, estime que 2020 est la pire année de sa vie. Ça fait beaucoup, hein. Et vous, quels sont les événements marquants de cette année? Je vous invite à soumettre vos coups de cœur, vos coups de gueule et vos souhaits à popourri@cut.fm. Une fois de plus, à tous ceux et celles qui ont participé à cette émission, Alain Baribeau, ex-agent de la GRC et collaborateur de Popourri Show, le pianiste et écrivain hors norme Pierre-André Doucet, et son livre Choc sur l'homosexualité, un grand merci. Les éditions Prise de Parole, DJ Devora, tous nos radios partenaires, nos médias partenaires, grand merci. Et à tous les mordus des musiques des îles de l'océan Indien, je vous rappelle encore une fois, et d'ailleurs je le remercie chaleureusement, Philippe Demanier, fondateur d'un site fabuleux qui regroupe près de 4000 titres. Ah oui, des Cégades, la Maloya, de l'océan Indien, l'île Rodrigue, les Seychelles. Alors allez-y sur www.philoumaurice.com ou visitez notre site pour tout savoir. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine, soyez prudents et prenez soin de vous. Que la force soit avec vous. Vamos a ti, vamos.
Comme dans l'air, 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 com tambour Madinina. C'est tambour Madinina. Tambour Carriquera. C'est tambour Carriquera. C'est tambour Guyana. C'est tambour Guyana. Kalaka sonne, fais nous chanter. Kalaka kwame, fais nous danser. Aïe amuna, a écouté tambour là. La palais dit l'amour.
Just